Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Quel bel évangile, mes bien chers amis, que celui du bon pasteur. Notre Seigneur se présente en effet dans cette parabole comme étant celui qui s'occupe du troupeau, comme étant le bon pasteur, comme étant le bon berger. Et cela est important. Non seulement notre Seigneur n'est pas mercenaire, il n'est pas seulement un pasteur parmi les autres, mais il est, comme il se définit lui-même, le bon pasteur. C'est-à-dire celui qui est le pasteur par excellence, et d'ailleurs par excellence en tout niveau. Il est le premier de tous les pasteurs, mais il est aussi le premier non seulement en grade, j'allais dire, mais aussi en dignité. Il est vraiment la bonté même qui s'incarne dans son pastorat suprême. Notre Seigneur, dans sa parabole, pour mieux nous faire comprendre ce qu'est le bon pasteur, va expliciter, en apportant l'éclairage tant négatif que positif, il va en effet parler du mercenaire, de celui qui est le contraire du bon pasteur. Et ensuite, il parlera, en opposition au mercenaire, de ce qu'est véritablement le bon pasteur. Le mercenaire, et notre Seigneur le met dans une situation bien caractéristique, et c'est celle du danger, le mercenaire va abandonner le troupeau. Il va le laisser au loup qui va le disperser. Pourquoi le mercenaire agit-il ainsi? Notre Seigneur répond, parce qu'il est mercenaire. Certes, mais il va un petit peu plus loin, c'est parce que le troupeau n'est pas le sien. Ce n'est pas sa propriété. Il ne fait que s'en occuper un peu, juste pour lui, à savoir pour récolter de l'argent. C'est cela un mercenaire. Il vend, j'allais dire, sa personne et son travail uniquement pour récolter de l'argent. Le travail en lui-même, les hommes, le troupeau, il n'en a rien à faire. Alors, ici, le mercenaire, c'est celui qui est détaché de l'œuvre à accomplir. Il n'est là que pour lui. Aussi, lorsqu'il y a un danger pour lui, eh bien, il va fuir. Celui qui est le bon pasteur va s'occuper du troupeau. Et comme ce troupeau, c'est le sien, il ne va pas l'abandonner. Parce que finalement, il ne fait qu'un avec le troupeau. Et ce qui atteint le troupeau, l'atteint lui-même. S'il y a un danger pour le troupeau, il y a un danger aussi pour lui-même. Et le troupeau, le pouvant, eh bien, se défendre lui-même, c'est à lui d'assurer cette tâche. Il ne va pas se désolidariser de son troupeau. Par amour, parce que c'est la tâche que le Père des cieux lui a confiée, s'occuper de chacune de ses brebis en particulier, et pas seulement le troupeau en général. Alors, après avoir compris que notre Seigneur est le bon berger, celui qui ne va pas nous abandonner, voyons l'aspect positif. Qu'est-ce que notre Seigneur fait? Pourquoi dit-il qu'il est finalement le bon berger, à part le fait qu'il ne nous abandonne pas? Eh bien, notre Seigneur définit le bon berger sous le rapport, tout d'abord, de la connaissance. Le bon pasteur connaît ses brebis, et ses brebis le connaissent. Et il va plus loin, ce qui est tout à fait étonnant. Il va expliciter que cette connaissance a comme modèle, et elle se rapproche d'une connaissance qui est infinie et parfaite. Comme moi-même, je connais le Père, et que le Père me connaît. Avouez quand même que c'est tout à fait surprenant, cette comparaison. Comment notre Seigneur peut-il comparer le fait, la connaissance mutuelle entre le bon pasteur et les brebis, et la connaissance que le Père a du Fils, et le Fils a du Père, de toute éternité, en Dieu? Parce qu'il n'y a pas connaissance plus parfaite. Le Verbe de Dieu, le Fils de Dieu, connaît le Père parfaitement, il l'exprime totalement, il est le Verbe du Père, il est cette parole qui dit tout ce qu'est le Père. Aussi, la connaissance est parfaite. S'il manquait une seule petite chose dans cette parole qui n'exprime pas toute la nature divine, tout Dieu, alors le Verbe serait imparfait, alors le Verbe ne serait pas Dieu. Donc cette connaissance est absolument parfaite entre le Père et le Fils. Eh bien, notre Seigneur nous dit que entre le bon berger, entre le Christ et chacun des membres de son troupeau, cette connaissance est similaire. Chose extraordinaire. Notre Seigneur, il est bien facile de le comprendre, comme il est Dieu, il le connaît parfaitement. Ce qui est d'ailleurs très réconfortant, parce qu'il sait d'où nous venons, il sait quelles sont nos difficultés, quels sont nos problèmes, quelles sont toutes les choses à travers lesquelles nous devons passer, et puis aussi, quelle est notre constitution intime. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes, dit saint Augustin. Dieu plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes, dit-il plus précisément. Alors oui, notre Seigneur nous connaît bien. Et cette connaissance est une connaissance parfaite, est une connaissance aussi amoureuse. Dieu nous aime dans cet acte de connaissance. Alors, nous pouvons être rassurés. Si Dieu connaît nos péchés, si Dieu connaît nos faiblesses, ce n'est pas pour nous condamner, il nous aime. Alors, il faut se montrer à lui. Il faut se dévoiler à lui. Il faut que le Christ, j'allais dire, fasse toujours plus connaissance avec nous-mêmes quand, dans l'humilité de notre attitude, nous nous rendons connaissables, si l'on peut dire, à Dieu. Alors le Seigneur peut travailler dans nos cœurs. Mais il y a connaissance réciproque, sinon il n'y aurait pas véritablement amour. Alors pour qu'il y ait connaissance réciproque, il faut que nous connaissions le Seigneur. Est-ce que nous connaissons Jésus ? Est-ce que nous connaissons véritablement qui est Dieu ? Ou est-ce que nous venons seulement le dimanche à la messe honorer un Dieu un peu étranger qui n'intervient pas dans nos vies, que nous ne connaissons pas ? Il faut connaître Dieu. Et pour le connaître, eh bien, il faut prier, et prier, et encore prier extrêmement souvent. Alors dans l'oraison, alors dans la prière, même quand elle est courte, si elle est intense, si elle est vraie, si elle est profonde, alors nous connaissons toujours plus le Christ et le bon pasteur. Et nous pouvons nous rendre dociles à ses enseignements, à ses ordres, à ses demandes, à tout ce qu'il veut et tout ce qu'il attend de nous. Mais il faut, encore une fois, le connaître. Est-ce que nous avons à cœur, de temps en temps, de reprendre l'évangile du dimanche pendant la semaine ? Il le faudrait pourtant. C'est bien, c'est la révélation. C'est ce que Dieu a dit de lui-même. A dit de Dieu et a dit de tous les moyens de salut. Et le Saint-Esprit a éclairé les évangélistes pour qu'ils nous rapportent cela fidèlement. Alors il faut reprendre l'évangile pour mieux connaître Jésus. Et si nous le connaissons bien, parfaitement, j'allais dire, alors nous pourrons le reconnaître. Et dans cette période de Pâques, ce qui est étonnant, c'est que souvent, le Christ ressuscité n'est pas reconnu tout de suite. Sainte Marie-Madeleine est dans le jardin, à savoir là où notre Seigneur a été enterré. Elle ne reconnaît pas tout de suite notre Seigneur. Il est le jardinier, il est celui qui s'occupe de ce jardin. Non, elle ne le reconnaît pas, seulement lorsqu'il va l'appeler par son prénom. Ou alors les disciples d'Emmaüs, et dans l'Alléluia d'aujourd'hui, double Alléluia, nous avons cette mention des disciples d'Emmaüs. Ils le reconnurent à la fraction du pain. C'est-à-dire ce geste caractéristique que notre Seigneur avait fait, eh bien, ils le reconnaissent ici. Il faut connaître Jésus pour pouvoir le reconnaître. Et le reconnaître dans nos vies. Parce que le Seigneur est à l'œuvre dans nos vies. Et si nous regardons un petit peu ce qu'est notre vie de tous les jours, et si nous sommes attentifs, si nous connaissons déjà la manière de procéder du Seigneur envers nous, alors nous pourrons le reconnaître et lui en être infiniment reconnaissant de tout ce qu'il fait pour nous, de tout son agir, de toute sa proximité pour nous à travers notre vie. Connaissance qui doit être de plus en plus parfaite quant à nous, puisqu'elle est parfaite du côté de Jésus, mais également à nous. La connaissance purement intellectuelle ne servirait de rien pour notre salut s'il n'y avait aussi l'amour de Jésus. Eh bien, cet amour, nous pouvons le faire grandir dans la mesure où, justement, Jésus nous aime particulièrement. Et il connaît chacune de ses brebis par son nom. C'est-à-dire qu'il va aussi l'aimer chacune pour ce qu'elle est en particulier, personnellement. Ce n'est pas un amour global d'une gentille communauté qui s'appellerait l'Église. C'est en particulier chacune des personnes composant l'Église que notre Seigneur aime particulièrement, c'est son troupeau. Il aime aussi tous les hommes dans la mesure où ceux-ci doivent rentrer dans le bercail. Alors, comprenons l'amour de Jésus pour nous. Cet amour, Saint-Pierre nous dit dans l'Épître, cet amour va jusqu'à donner sa vie pour nous. Et notre Seigneur le dit, le bon berger va jusqu'à donner sa vie pour ses brebis. Parce qu'il n'y a pas deux vies. Il y a la vie du berger qui va préserver la vie du troupeau. Et notre Seigneur pouvait la donner et il fait cet acte d'amour par excellence, ce sacrifice de lui-même. Alors, eh bien, essayons de mieux comprendre ce double rapport de connaissance et d'amour. Et aimons notre Seigneur tout particulièrement lorsque nous le voyons à l'œuvre, dans nos vies. Comment ? Eh bien, je crois qu'il faut aussi insister sur un point. Notre Seigneur veut passer à l'heure actuelle par son Église. Il n'agit pas, ou pas souvent, de manière directe. Le bon Dieu a créé des médiations. La médiation principale, c'est l'Église. Et dans l'Église, ce sont les prêtres. Alors, pour cela, eh bien, il faut se mettre au contact de ces médiations, au contact de l'Église, au contact des prêtres. Pourquoi ? Bien parce que la grâce de Dieu, cette grâce est sacramentelle, d'abord et avant tout. Et cette grâce sacramentelle va passer à travers le ministre ordonné, qui est le prêtre. Dans les sacrements, c'est la vie. De même de Dieu, c'est la grâce qui nous est donnée. Alors, si nous sommes au contact des sacrements, c'est Dieu qui donne sa vie pour nous, à savoir qui nous la transmet, qui la répand dans nos cœurs. Également dans les enseignements. Si l'enseignement de ce dimanche est peut-être un petit peu plus long que d'habitude, eh bien, c'est une bonne chose. Il faut en être reconnaissant au Seigneur. L'enseignement est là pour la vie également, la vie de l'esprit, la vie de nos intelligences qui ne peuvent pas se contenter d'un petit catéchisme de 5 ans. Ce n'est pas possible. Donc il faut continuer de connaître notre Seigneur. Et comment se met-il à notre portée ? Eh bien, par l'enseignement de l'Église, par l'enseignement des prêtres qui touchent les fidèles et qui touchent le troupeau ainsi. Soyons heureux que notre Seigneur nous transmet toute cette vie qui en lui est intellectuelle, eh bien, à travers les enseignements de l'Église. Et également, parce que notre Seigneur n'est pas seulement prêtre, il n'est pas seulement prophète, il est aussi roi, eh bien, notre Seigneur, cette vie royale passe à travers la médiation de l'Église et des prêtres, dans le fait, eh bien, qu'il y a une conduite, il y a des règles. Il y a un droit dans l'Église pour justement pouvoir conduire les fidèles. Il y a même des indications pastorales. Il y a toutes sortes de choses qui permettent au troupeau, dans l'état actuel, présent, d'aujourd'hui, de pouvoir atteindre véritablement Dieu. Il faut se mettre donc sous la conduite du pasteur suprême qu'est notre Seigneur Jésus-Christ et de son représentant sur la terre qu'est le pape, évidemment. Dans la conduite, nous comprenons et eh bien, nous pouvons nous laisser reprendre par le Christ. Nous pouvons nous laisser corriger par Jésus. Nous pouvons enfin nous laisser éclairer sur les bons moyens à prendre pour pouvoir parvenir au port du salut qu'est le ciel. Alors demandons à Notre-Dame eh bien, de nous donner de bons pasteurs. Elle nous a donné le bon pasteur par excellence qu'est Jésus, qu'elle nous donne également et qu'elle préserve déjà notre Saint-Père, qu'elle nous donne de bons évêques, et qu'elle les préserve de toute atteinte. On voit combien les évêques sont importants, et surtout en ce moment. Donc il faut absolument prier pour nos évêques, pour ceux qui suivent un peu l'actualité. Vous voyez combien aux États-Unis, la tension est en train de grandir énormément, avec des enjeux considérables, puisque ça va être peut-être des centaines d'hôpitaux, maternités et autres qui vont être obligés de fermer. Considérable, mais parce que l'Église est ferme dans ses principes et qu'elle ne peut pas céder et que les évêques ont compris la nécessité eh bien, de dire non, non possumus, nous ne pouvons pas. Ce n'est pas plus compliqué que cela, nous ne pouvons pas. Et donc, il y aura l'affrontement. Et l'affrontement, d'ailleurs, est déjà commencé aux États-Unis, plus ou moins larvé, mais bien réel. Et en France, eh bien, l'avenir proche nous dira qui va présider à la tête de la nation, mais il va falloir prier énormément pour que nos évêques aient l'intelligence de la situation pour pouvoir avoir une réponse intelligente, éclairée et chrétienne, pour pouvoir répondre à tous les enjeux du troisième millénaire. Donc prions bien à toutes ces intentions, prions bien, puisque c'est la journée des vocations aussi, prions bien pour que notre Seigneur nous envoie des prêtres, de bons prêtres, afin qu'ils puissent sanctifier le troupeau, le conduire et le porter à la vie éternelle, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.